De Radio Silence, bonjour. Nous sommes le 16 août, au lendemain de la fête de Marie, et je vous fais dans cette émission pleine de grâce. Comme on dit, je vous salue Marie. Et on dit quoi? Comment on dit? Comment on accueille les nouveaux enfants qui reçoivent la communion? Je ne sais pas. Ben, on leur dit bienvenue dans le monde des chrétiens, de ceux qui ont fait vœu de croire au Sauveur, à un Sauveur, à un Christ, et à ce qu'on appelle la vie renouvelée, vivre en esprit. Voilà, c'est ce que nous devons apprendre à faire, mais ce n'est pas toujours facile devant tout ce qu'on voit sous nos yeux. La réalité du monde est tout à fait interpellante et fait en sorte que on ne peut toujours pas. C'est pas si c'est vivre en esprit que de réagir à la bêtise de l'humanité parfois et surtout à la méchanceté. Je sais pas si c'est vivre, si c'est ne pas être en conformité avec la vie chrétienne qui appelle à pardonner tout, à passer sur tout, à se dire « pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Bon, ça c'est pour les enfants, mais quand on est adulte et vacciné et qu'on passe son temps à contourner la loi ou alors à louvoyer ou alors à prendre les autres pour des, comment on va dire, des grands enfants, des adolescents, c'est un peu, ça c'est pour être gentil, hein, parce que c'est pour pas dire idiot, c'est un peu, c'est problématique lorsqu'on veut vivre une vie chrétienne. Alors, l'émission aujourd'hui, c'est une réaction en fait l'éditorialiste Bernard Lugan, mais à son éditorial, qui porte sur le déterminant ethnique en Afrique et qui déplace un peu les lignes dans l'analyse qu'on fait toujours sur les crises africaines, ou plutôt sur l'origine de la crise en Afrique en termes de pauvreté chronique, en termes de sous-développement majeur et qui ne semble pas vraiment prendre la voie de la sortie, ce qu'on appelle l'émergence, en termes de cohabitation des ethnies, voilà, et en termes de, j'allais dire contrat social, il utilise le mot, mais disons de creuset républicain. Bernard Lugan prend, voilà, c'est intéressant parce qu'il parle de l'Afrique, enfin c'est intéressant, c'est le sujet, ça concerne l'Afrique, ça concerne pas un autre pays du monde, où donc il s'appuie sur l'exemple de trois pays. L'Éthiopie, qui est menacée par une mosaïque ethnique qui va être incontrôlable, 232 ethnies environ. Le Nigeria, qui a, ça en parle de déterminant ethnique. Il y aura du bruit, hein. Je suis dans mon village, mais vous savez, on verra à la fin de l'émission, la ville, le village aujourd'hui, c'est plus le village. C'est une agrégation de traditions mal gérées, mal digérées et de modernité tout à fait aussi sauvage. Donc, c'est pas leur faute, mais c'est le dispositif, je ne sais pas si on va appeler ça aménagement du territoire qui le veut. Il y a donc, on est là à côté de la chefferie, et à côté de la chefferie, c'est là qu'on a trouvé le moyen de venir plaquer un centre-ville, un centre commercial, doublé d'une gare routière. Alors, c'est puis des bars qui font du bruit, c'est un agrégat de nuisances sonores dans un espace qui devrait être un havre de paix. Alors, c'est très, voilà, c'est ça, c'est l'Afrique. C'est contradictoire, mais l'aménagement du territoire n'est pas du tout pris en compte dans tout ce qu'on considère considère comme le développement de l'Afrique. Et or, cet aménagement, il vient agresser les traditions sans apporter la solution moderne qu'on attend sur le développement des villes. Donc l'Éthiopie qui a le problème de la mosaïque ethnique, le Nigeria qui a le problème Peul, qui va probablement sur lequel commence à surfer les réseaux Al-Qaïda et tout, ou l'Aïd, puisque je crois que l'Al-Qaïda n'existe plus. Mais bon, vous voyez un peu la mouvance. Et vous avez l'Afrique du Sud, il parle de l'Afrique du Sud, qui a le déterminant ethnique Zoulou. Donc, ce sont des gens qui, à terme, peuvent demander leur séparation de l'État pour dans des raisons, on va pas seulement dire ethniques, parce que l'ethnie, lorsqu'elle devient très majoritaire, un fait majoritaire, a un problème qui est celui du fait culturel. Vous savez, les mots dans une langue, c'est pas que des mots, ils déterminent les affects, ils déterminent la culture, comment on pense, l'autre notamment, ils déterminent la communauté d'appartenance et qui fait que finalement on ne veut plus forcément cohabiter avec ceux qui ont été imposés dans le cadre du découpage des frontières par les Occidentaux. Alors, il s'insurge hein, parce qu'il dit que les africanistes très en vue, parce que bon, c'est vrai que Bernard Lugan, lui, il connaît l'Afrique, même si par-dessus, il applique parfois une lecture idéologique. J'ai pas dit une lecture blanche, ni hein, blanche suprémaciste, j'ai bien dit idéologique parce que chacun d'entre nous a son idéologie, enfin, a ses, je veux dire, sa subjectivité, si vous voulez. Et le problème du débat, ou plutôt le problème, l'enjeu, c'est que chacun apporte sa subjectivité et qu'on entre dans une forme d'intersubjectivité à partir de laquelle on peut donc commencer à construire une objectivation. Vous savez, l'objectivité plutôt. Bourdieu disait, il faut objectiver les lieux à partir desquels on s'exprime. Donc, objectiver la subjectivité, c'est entrer dans l'intersubjectivité. Donc, moi, j'entre très bien dans ce jeu-là avec lui, dans ce jeu, c'est une façon de dire, mais cette réflexion, c'est plus sérieux là-dessus. Donc, il y a un risque, c'est de séparatisme violent. Et lui, il déplore le fait qu'on ait dit que ce sont les Européens qui ont créé. La question qui ont créé les ethnies en Afrique. Évidemment, c'est faux, c'est pas les Européens qui ont créé les ethnies en Afrique, mais ils ont opéré des découpages qui font qu'ils ont mis ensemble des ethnies qui ne devaient pas cohabiter. Et donc c'est un problème. Par exemple, au Cameroun, on a deux niveaux de considération d'ethnicité. On a tendance à dire les Bamiléké, par exemple, mais les Bamiléké, c'est beaucoup de langues Bamiléké, en fait. Ils ne parlent pas forcément tous la même chose d'une localité à une autre, pourtant ils sont proches. Et puis il y a le niveau où vraiment, alors, on a mélangé des gens qui n'avaient vraiment rien à voir en commun, ou plutôt qui avaient beaucoup de choses à voir en commun, mais qu'on a séparés volontairement. Par exemple, le groupe des Fang, qu'on peut retrouver en partie au Gabon, et une partie au Cameroun, vous voyez. Donc, il y a un découpage des frontières qui était violent, mais il y a le fait ethnique en tant que tel qu'il ne faut pas nier, parce qu'il vient agresser le contrat social dans ce sens que est-il possible, avec cette façon de raisonner chacun pour sa communauté, est-il possible de penser même que la notion de l'État peut s'appliquer dans les pays africains? Voilà, donc il y a une vraie question qui est posée, et lui, Bernard Lugan, se dit que c'est cette question identitaire là, appuyée sur les ethnies, les tribus, comme il dit, qui va faire problème, plus que parce que d'après lui, les analystes s'appesantissent trop sur la question, les crises sociales, les crises économiques. Non, pour lui, ça c'est des non, c'est pas ça qui peut menacer le contrat social, mais c'est vraiment la question ethnique. La question tribale, parce que les communautés auront tendance à réclamer probablement d'ici quelque temps leur autonomie, y compris territoriale. Donc la question se déporte sur l'aménagement du territoire et elle se déporte aussi. Bon, ici au Cameroun, on parle du vivre ensemble sans mettre quelque chose là-dedans. Mais on voit bien que ce vivre ensemble, c'est une juxtaposition des communautés ou plutôt les gens vivent dans des cercles concentriques, même si à côté, il y a une politesse qui est plutôt de convenance ou de façade. Mais au fond, il n'y a pas un lien. Vous ne pouvez pas, en tant que Bassa, traverser la frontière qui va vous séparer d'un nordiste, par exemple. Ce n'est pas possible. Il y a des frontières invisibles. Pourtant, vous faites partie du même État, mais tout simplement parce que vous ne parlez pas la même langue. Et pire, quand vous y a la notion musulman-chrétien, vous êtes encore dans un autre clivage. Vous ne croyez pas au même Dieu. Toutes ces choses-là qui définissent la personnalité des gens et des croyances et leur comportement et leurs objectifs et leur façon de concevoir le vivre ensemble. Donc il y a un défi qui est posé à l'Afrique, très frontalement. Dans tous les pays, vous retrouverez cette question ethnique, hein. Au Cameroun, il y a des tribus, 230 combien, je ne sais pas. C'est un problème que les rois en France et ailleurs ont résolu en supprimant les dialectes, tout simplement. C'était violent, mais on a dit on parle français. Point. Et parce qu'on va penser français. Alors avec, peut-être c'était plus facile, il y avait 4 ou 5 langues majoritaires, mais ici on a 232. Comment on fait quand on a 232 ethnies, voire plus, c'est une mosaïque infernale. Il faut là-dessus plaquer un État qui soit exemplaire. Et cet état exemplaire, ça nécessite quelque chose qui est peut-être au-dessus des compétences de l'Afrique, ou peut-être quelque chose à inventer. Et c'est là où, bon, il y a une autre réflexion qui est purement sociologique, à côté de cette réflexion, j'allais dire anthropologique, de Bernard Lugan, c'est qu'il y a un sociologue, vous savez, les sociologues, c'est une excroissance de ce qu'on appelait avant les ethnologues. C'est des gens qui savent aussi concevoir ces choses-là sur une autre base, c'est-à-dire une base évolutionniste, bien que l'anthropologie soit aussi évolutionniste. Et j'ai oublié le nom de ce sociologue qui a fait étudier la question de l'intégration. Il a rapporté plutôt cette étude qui a été faite sur l'intégration des communautés étrangères à Chicago. On appelle ça l'école de Chicago. Et où disait très bien que les communautés en elles-mêmes ne sont pas un souci. Elles sont pas un souci en ce sens que l'espagnol, ceux qui parlent espagnol, vous savez, en Floride là-bas ou au Texas, bah, c'est pas forcément qu'ils ne vont pas s'intégrer. Il y a déjà un vote hispanique en ce moment, mais c'est que pour eux, il y a un processus à deux niveaux, comme on peut dire en communication, de two-step flow communication, processus en deux étapes. La première étape, c'est qu'il faut que les gens soient dans des communautés fortes, hein, qui aient un sentiment de cohésion et de sécurité, de confiance, qui fait en sorte que après, ils peuvent bouger pour aller rejoindre le mainstream, c'est-à-dire le tronc commun qui est l'État. Donc, il n'y a pas vraiment une contradiction. Mais là où la contradiction intervient, c'est lorsque les communautés sont fragiles ou sont trop petites ou sont pas sécurisées. Les gens ne sont pas très sécurisés, sont pas trop en confiance déjà. Ils auront du mal à franchir le pas pour aller vers la nation. Et c'est peut-être la question qui est posée aujourd'hui pour les villages africains aussi, où ces gens qui n'ont pas trop confiance en eux parce que trop beaucoup d'illettrisme, pas d'éducation vraiment, et puis pas de modèle, développent des comportements plutôt, vous savez, d'animalité qui s'approprient le territoire sauvagement parce que c'est tout ce qui leur reste, le territoire. Et c'est contradictoire avec l'aménagement du territoire. Par exemple, je vous parlais donc de mon village où je suis. Si on arrive ici pour faire un aménagement du territoire cohérent, on doit séparer les chefferies des centres-villes, des centres commerciaux trop bruyants, dont il faut couper. Ce n'est pas les chefferies qui vont bouger, c'est le centre qui va bouger. Il faut tracer les routes, c'est pareil. Il faudra préserver les espaces vraiment traditionnels et puis pour les autres, les déplacer et réorganiser une ville, si on peut appeler comme ça, une cité, à un autre niveau. Et c'est pas simple, c'est un grand travail qui est un peu négligé ici. On parle beaucoup. Vous savez, l'aménagement du territoire, on l'a découpé en petites choses comme comment on dit, les petites choses comme le développement urbain, la décentralisation. C'est-à-dire, ça s'est éparpillé dans tous ces ministères-là. Et au fond, l'agriculture d'ailleurs, la pêche aussi, mais tout cela va ensemble parce que la pêche aujourd'hui, on crée des lacs artificiels pour produire un poisson dont on ne connaît même pas la teneur énergétique et calorique. Bon, on a tous ces problèmes d'écosystème à réinventer en Afrique. Si on dépasse le déterminant ethnique, qui peut être dépassé, mais pas de la façon bâtarde, j'allais dire, brutalement sociale et brutalement économique ou sauvagement économique, non, par l'aménagement du territoire, dont ça interpelle encore l'État. Malheureusement, oui, toutes les grandes villes du monde, tous les pays du monde ont commencé par être bâtis par les États. C'est après qu'on privatise, c'est pas tout de suite, non, non, non. On ne peut pas commencer par la privatisation, c'est vraiment le monde à l'envers. Sinon, bon, c'est un flash, hein. Sinon, on a vu Haïti encore dans le monde, hein, du malheur. On a vu Kaboul qui tombe entre les mains de ceux dont on ne voulait pas qu'ils prennent le pouvoir, hein, les talibans. Mais ça, c'est pareil, vous voyez, quand on parlait du fait identitaire, vous ne pouvez pas tout seulement le réprimer comme on a voulu le faire, comme l'Amérique a voulu le faire en venant plaquer un État sur quelque chose qui était quand même très, 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 très traditionnel et très, très, très religieux. Donc, il faut réfléchir autrement. C'est dommage, Kadhafi n'est plus là parce que lui, il avait une réponse qui semblait bien concilier les deux aspects de la chose. Bon, les talibans, ils sont inévitables en Afghanistan. Ils veulent une république islamique. C'est un peu comme l'Iran. Vous ne pouvez pas lutter contre ça, mais vous pouvez, puisqu'ils étaient sur place et qu'ils avaient la main, ils auraient pu essayer de faire quelque chose, mais vous savez, c'est revenu dans la corruption. Voilà, quand l'État n'est pas exemplaire, ça redonne cela. C'est d'ailleurs ça le creuset du problème. Hein. C'est vraiment, il y a les déterminants ethniques possibles, mais ce qui est sûr, c'est qu'un État qui n'est pas exemplaire, c'est pas à 100%, ça existe pas, on est des êtres humains, mais quand même qui donne, qui met tout le monde d'accord, cette perception qu'on construit le pays pour tout le monde et pas seulement pour certains. Si on a cela, ben, les talibans disparaîtront. Mais quand l'Amérique arrive et ne met pas cela en place, vous voyez, c'est mal joué à sa carte géopolitique, ça donne pas, ça donne pas. Et après aujourd'hui, on s'en prend à Monsieur Biden, le pauvre président Biden. Bon, voilà, moi je vais pas pleurer pour lui, hein. George Bush, qui est son grand ami, c'est lui qui était à l'origine de toute cette occupation-là, soi-disant, on cherchait Ben Laden. Ben Laden est mort depuis, mais on est toujours là. Donc, c'est vrai que on aura des terroristes, des fanatiques religieux, mais au fond, ce qu'on aura toujours, c'est la demande, une demande d'État qui soit une structure, une superstructure au-dessus justement des ethnies, au-dessus des religions, au-dessus de tous les extrêmes qui font que après la cohésion sociale ne peut pas exister normalement. Bon, le bruit s'intensifie malheureusement. Je vais être obligé d'arrêter. On avait une plage un peu de calme là, mais ici, si je vais vous dire, je vous décris la ville normande très vite. Vous avez un moulin là qui tourne, qui écrase le maïs des paysans, et puis le manioc, et puis les épices. Vous avez en face la chefferie. Vous avez tout de suite derrière les bars qui vont brailler. Alors là, vous avez dans les villages les motos qui passent, qui passent, qui passent comme ça, et en tonitruante. C'est un environnement, ça peut pas tenir, ça peut pas tenir, c'est que du n'importe quoi. Et tout en haut, plus loin, les autorités sont allées se cacher. Vous savez, c'est comme le avant, lorsqu'il y avait la colonisation, les autorités habitaient très très loin de la populace. Et les autres, enfin, ils étaient là-bas tranquilles, dans la montagne, tout en haut. Enfin, c'est toujours dessus des collines. Et puis en bas, c'est les marécages, voilà, où on n'a même pas le droit d'habiter, mais où tout le monde est venu se concentrer. Un désœuvrement pas possible. Aujourd'hui, c'est même calme parce que d'habitude, c'est terrible. Alors, on venait au village pour se ressourcer, mais maintenant on vient, c'est pas possible. Et là-dessus, on va créer un tourisme, on va faire obligatoirement un tourisme sélectif et électif, parce que ici, il n'y a pas les élites, quand je dis pas les élites, l'administration ne prend pas en compte l'effet, comment on va dire ça, éducation populaire des gens. Par exemple, un bar qui doit fermer à 21h ne fermera pas à 21h, il traînera comme il veut. Par exemple, le niveau sonore, c'est comme on veut, vous dormez pas. Apprendre le respect tout simplement de l'autre, c'est déjà un problème. Et ça, c'est aussi quelque chose qui doit être marqué sur le sol, en même temps qu'il doit l'être dans les esprits. Bon, amis de Radio Silence, après les prières de Marie, voilà ce que je pouvais vous dire pour vous relancer. Et puis, qu'est-ce que je peux avoir de dernière nouvelle à vous communiquer? Non, je ne vais pas faire beaucoup de polémiques. On va se dire, vous avez écouté Flash sur le monde par Elise Mbog. Pour Radio Silence, je vous dis à bientôt.